Bonjour à tous, vous êtes sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique tous les vendredis sur Radio Canu de 13h à 14h. Avec nous dans les studios, Maxime Roger.
Bonjour.
Marion Cousinier.
Bonjour.
Lorraine Girardin-Laverge. Bonjour Lorraine. Manu Petite-Demange. Clara Fustier à la technique.
Bonjour.
Et Marion Grenier. Alors aujourd'hui, on poursuit notre cycle de lecture de théâtre jeune public, ou plutôt intergénérationnel. On a déjà lu la pièce Guitou de Fabrice Melchior, il y a quelques mois, et on vous propose aujourd'hui la pièce Méhari et Adrien de Hervé Blotsch. En deux mots, Hervé Blotsch est un coiffeur, et oui, un coiffeur de renommée, qui a une filière européenne de soins capillaires bio. Je vous assure, je ne mens pas. Et parallèlement à cette activité, il est auteur de théâtre, il est auteur dramatique. Adrien et Méhari a été écrit en 2000 et édité aux éditions théâtrales. Je vous laisse découvrir cette pièce en commençant par une lecture de la préface de cette pièce. Ça va prendre quelques minutes. Genève, le 21 juin 2001. Cher jeune, c'est avec plaisir et amusement que je te livre ces deux pièces en pâture. J'espère seulement que tu n'en feras pas n'importe quoi. Tu pourras les manger, ça ne me dérange pas. Pour parler honnêtement, sache tout d'abord que ces pièces n'ont nullement été écrites pour toi spécifiquement et que les raisons qui m'ont poussée à accepter cette publication sont toutes matérielles, car tu es un marché, jeune, au-delà de ton concept et tu m'envoies confus. C'est pourquoi je te suis néanmoins reconnaissant d'accepter cet ouvrage que tu jugeras bien sûr avec ton intelligence de jeune. Je ne sais malheureusement pas ton âge, je t'imagine comme une tranche, un 14-18, un 12-17 peut-être. Et comme on change à cet âge-là, les jeunes filles s'empourprent facilement, les garçons s'emportent, mais surtout ça et là pointent des espaces nouveaux à investir et des rêves de réussite dans le monde du commerce et des services qu'il te faudra oublier en lisant ces pages. Nous n'aborderons que très peu la question de ta réussite sociale. Je ne te dirai pas comment il faut lire les pièces car je suppose que tu sais lire, je te dirai seulement comment il ne faut pas les lire ni les jouer. Tout d'abord, Méhari et Adrien, les personnages clés de Méhari et Adrien, ne sont pas des enfants. Je te le dis à toi comme je le dirais à un moins jeune. Car on peut penser au premier abord qu'ils sont des enfants. Et ce, même lorsque l'on n'est pas jeune. Mais non. Ils ont un rapport amoureux enfantin. Car comme tu le découvriras plus tard, à moins que tu ne l'aies déjà éprouvé, le rapport amoureux est une régression. Une régression somme toute positive puisqu'elle rouvre les portes du jeu, jeu que tu n'aurais jamais dû abandonner pour entamer ta préparation à la carrière de chef de service ou d'agent médiateur pour la RATP. Il est encore temps de te retourner et d'aller élever des chèvres. C'est aussi une pièce d'image, et si tu l'abordes du côté de la mise en scène, tu travailleras à la rendre plus fluide qu'elle n'apparaît peut-être sur le papier. Tu chercheras à éliminer ces noirs dont j'avais la manie lorsque je l'ai écrite. J'étais moi-même jeune alors, moins jeune que toi, je t'assure, mais jeune encore. Enfin, dans les deux passages oniriques, il ne faut pas que Méhari apparaisse physiquement telle qu'elle est dans le reste de la pièce. Elle doit donner l'impression de se retrouver dans un autre corps, trop grand ou trop petit. Idem pour Adrien quand il la rejoint. C'est seulement dans la dernière scène du petit théâtre de Méhari, lorsque leurs têtes surgissent des petits chars, que le public retrouve leur visage. Maintenant, je te laisse découvrir ces deux petits textes qui te plairont sûrement. Bonne lecture et n'oublie pas de dire à tes parents que je vends aussi du shampoing bio. Hervé Blotsch.
Thank you.
se lève. On découvre à l'arrêt un sidecar. Dans la cabine du passager se tient Adrien, un grand type, bras appuyé sur la barre avant. Il porte un casque avec des lunettes en cuir et serre les dents. Au volant de la machine, c'est Mary. Elle porte également casque et lunettes et serre aussi les dents. Elle donne un coup de kick. L'engin démarre dans un vombrissement superbe, tandis que Mary joue de l'accélérateur. Elle enclenche la première, passe la seconde, etc. Jusqu'à mener le sidecar à grande vitesse. Avec la bouche, Mary et Adrien font aussi le bruit de la machine. Ils ont du vent dans les cheveux, se penchent à gauche, à droite avec la moto, quand soudain, Adrien desserre les dents, lâche la barre avant et descend. Tandis que le bruit du moteur n'a pas cessé et que Mary semble aller toujours aussi vite. Adrien va à l'arrière de la scène, il appuie sur deux interrupteurs et le bruit et le vent stoppent successivement. On n'entend plus que Mary faisant avec la bouche. Adrien, dans son dos, la regarde et semble attendre quelque chose. Mary retire son casque, se retourne vers Adrien qui la regarde et dit
« Alors quoi ? T'en as marre ?»
Oui.
Pour toujours ?
Possible.
C'est vrai ?
Non.
Alors on repart ?
Non.
Pourquoi ?
On est bien là.
Oui, mais là on n'avance pas.
Non.
Alors on reprend la route.
Si tu veux.
Reprend exactement la même scène qu'au début. À nouveau, Mary se retourne vers Adrien.
Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?
J'ai pris un moucheron dans l'œil.
D'accord.
C'est un gros moucheron. Tu as vu, presque... Comment appelle-t-on ça déjà ? Un moustique ? C'est ça, un moustique. Tu crois qu'il est mort ?
Oui, noyé. On y va ?
On s'arrête là.
Là ?
Là. Nous allons enterrer le moustique. D'abord, nous construirons un petit temple. Ensuite, nous lui célébrerons une messe en extérieur, parce qu'il serait trop long d'échafauder une église. Tu tiendras des cierges, je réciterai une prière, et après avoir dit « Amen », tu souffleras sur les bougies. On fera une minute de silence, et la tête basse, nous suivrons la procession.
Parce qu'il a des amis ?
Je ne sais pas.
Combien ?
Disons 4.
Avec ou sans nous ?
Comme tu veux.
S'il n'a que 2 amis moustiques, ça va faire léger comme procession.
Disons 6 avec nous.
Et après ?
Après, on l'enterre, on pleure, on se tire.
Qu'est-ce qu'on donne comme excuse ?
Rien, on se tire.
Ils vont nous inviter à dîner.
Tu crois ?
Toujours après un enterrement.
Oui, mais pas chez les moustiques, tout de même.
Particulièrement chez les moustiques, c'est une tradition. Ils célèbrent le retour à la terre.
En mangeant ?
Oui, c'est une manière simple de dire qu'ils le savent heureux parce qu'il est retourné à la terre, alors ils le fêtent.
Qu'est-ce qu'on dit pour le dîner ?
Quoi ?
Comme excuse.
Le coup de la station essence qui ferme à 7h.
C'est risqué, s'ils ont de l'essence, ils vont nous la refiler.
Tu crois qu'ils ont de l'essence ?
Je me méfie de ce genre de loustique. Trouvons une excuse plus sûre. Le bébé qui attend, par exemple.
Et qui n'a pas dîné.
La dame qui le garde habituellement est tombée malade la semaine dernière.
On l'a laissée seule à la maison.
Tu t'inquiètes ?
C'est la première fois.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, de toute manière, tu es fatiguée.
Très bien. Tu leur dis ?
Tout de suite ?
On les prévient.
Attendons qu'ils proposent. Ce sera plus aimable et vraisemblable.
Parce qu'on est poli maintenant.
Ben oui.
C'est vrai, on est poli.
Quand même.
Noir, rapide. On les retrouve à nouveau roulant très vite avec bruit du moteur et vent. À son tour, Mary descend du véhicule en marche, exactement comme Adrien a pu le faire précédemment. Et Adrien descend, attrape dans la cabine un sac duquel il tire une tente, la déplie, commence à la planter.
Alors on campe là ?
Ouais.
Sur le bord de la route, on va se lever tôt.
Oui, mais c'est plus drôle.
Parce que c'est drôle maintenant.
Bah oui.
Ah.
Tu trouves pas ça drôle, toi ?
Coussi, coussa.
Depuis longtemps ?
Quelque temps.
Et tu ne m'en as jamais parlé ?
Non, je ne voulais pas altérer ta gaieté.
Parce que tu me trouves gay ?
Oui.
Souvent ?
Assez.
J'étais comment ?
Belle.
Vraiment ?
Vraiment.
Tout le temps ?
Non.
Quand ?
Le reste du temps.
C'est-à-dire ?
Les 3/4 du temps.
Les 3/4 du temps ? C'est super, dis donc.
C'est vrai.
C'est pas grave. Toi aussi, tu étais beau. Moins souvent, d'accord, mais avec tes cheveux comme ça qui descendent, avec tes petits yeux fatigués, un peu de poils sur les joues, et quand tu parviens à sourire, ça fait presque 1/4 du temps.
C'est dur.
Ça fait 1/4 du temps.
Alors c'est mieux qu'il y a 3 ans à la même époque. Or, c'était mon record, c'est bien.
Monsieur est content ?
Oui, très.
Alors on peut repartir.
Pardon ?
On peut repartir alors.
Tu rigoles ?
Non, on repart tout de suite, très vite.
J'ai déplié la tente.
C'est pas grave.
Un peu.
On s'en va.
Je replie la tente ?
Oui.
Je la remets dans le sac ?
Oui.
J'ai fait tout ça pour rien.
Mais non, pas pour rien.
Pourquoi j'ai fait tout ça, tu peux me le dire ?
Pour moi.
C'est vrai.
C'est vrai ?
C'est vrai. J'ai fait tout ça pour toi. Je m'en rends compte à l'instant, j'ai fait ça pour toi. C'est vrai, terriblement vrai. C'est à n'y pas croire tellement c'est criant de vérité. Tiens, je l'entends qui crie. Écoute, approche-toi.
Ah oui, ça fait comme un petit oiseau.
C'est un petit oiseau.
Tu en es sûr ?
Je parle petit oiseau, écoute. Tu as fait ça pour elle. C'est vrai, mon grand, pour elle. Et oui, je sais. C'est malheureux d'entendre des choses pareilles. Ça vous bousille un homme. Mais bon, quoi, c'est fait et tu n'y peux plus rien faire. Et puis tu sais, on oublie vite à ton âge. Mais c'est vrai, tu l'as fait pour elle. Et somme toute, je dirais que c'est plutôt concluant.
Ah, quand même.
Non, il n'a pas tort. Cela dit, je pensais qu'on resterait plus longtemps.
Eh ben non.
Non, alors je replie la tente.
À nouveau, Noir court. On les retrouve en position inversée sur le sidecar. Ils roulent.
Mais Harry !
Oui !
Tu m'entends ?
Oui, je t'écoute !
Non, rien. C'était juste un test. Comme ça, si j'ai besoin de te parler, je sais que tu m'entends.
Mais là, t'as pas envie de me parler ?
Non !
Noir à nouveau. On les retrouve face publique, regardant des voitures passer. Le bruit va d'un côté à l'autre de la scène. La moto a disparu.
Tu la vois ?
Elle est derrière la voiture.
Amochée ?
Elle fume.
Non.
Je t'assure.
Elle a l'air de souffrir ?
Non, le type dans l'auto aussi.
Oh !
Oui.
Tu crois qu'il est mort ?
C'est probable.
Seulement probable ?
Je ne parviens pas à me rendre compte.
Fais un effort. Il est mort ou pas ?
Il me semble bien.
Il saigne ?
Par la bouche, oui.
Il ne bouge plus ?
Non.
Génial. C'est génial. Je le savais, mais Harry, je le savais. Je le savais qu'elle en était capable de nous en tuer un. Un en voiture, un qui klaxonne et joue les fiers. Alors que toi, tu doutais.
J'ai jamais douté.
Non, tu n'y croyais pas.
Si, j'y croyais.
Mais tu n'étais pas sûr, tu trouvais ça probable.
Je disais ça, probable.
Tandis que moi, j'en étais sûr. Parce que c'était évident que la petite, un jour, elle y parviendrait. Parce qu'elle me l'avait dit, figure-toi.
Mais alors, le type ?
Quel type ?
Dans l'auto. Il est mort ?
Mort ?
Ben oui.
Il est mort ? Non. Mais c'est affreux ? Et c'est nous qui l'avons tué ?
Mais non, c'est elle.
Ah oui, c'est vrai. Elle exagère quand même.
Elle est jeune.
Je me demande si on n'a pas été un peu faible. On devrait la punir.
Ce serait mieux, oui.
On l'attache à un arbre et on la fouette.
Ah non, ça fait mal.
On la punit. On va pas lui offrir des bonbons.
On pourrait la pendre par la roue arrière et lui faire croire qu'on va la battre avec un fusil, non ?
C'est bien. Et puis je lirai des poèmes tristes en lui tournant autour et après on s'en va.
C'est quand même affreux pour le type dans la voiture.
En quelque sorte, oui. On ne peut pas dire qu'il y soit pour grand-chose. Il roulait dans son automobile, nous roulions sur notre sidecar. Je conduisais vite, j'aime la vitesse, c'est mon droit. Bref, nous roulions, c'est une victime. Il n'est pas tout seul.
Combien sont-ils ?
Des milliers, avec des lances. Ils courent très vite. Certains portent d'énormes cicatrices qui leur déchirent le visage. D'autres vont sans jambes dans des petits fauteuils roulants. Les premiers poussent les seconds. Une troisième colonne fait jour en arrière-plan. Ils sont affreux, mais Harry. Il y en a un qui semble être leur chef. Il monte le plus beau cheval et pousse des cris en faisant des gestes avec la main pour rameuter les autres derrière lui. Ils vont de plus en plus vite, mais Harry. Le type de la voiture se lève. Il les rejoint en courant. Le chef a l'air de sourire. C'est un accidenté de la route. Lui aussi, il y a très longtemps, il conduisait un char à Rome. Une roue qui se déboîte dans un virage et le bonhomme va s'écraser contre le mur. Notre type parle avec lui. Il se saisit d'un fusil qu'on lui tend. Il se dirige vers nous. Mais Harry, les voilà qui se ramènent.
On entend alors un bruit de course de plus en plus distinct. Noir, bruit effrayant qui devient plus faible, encore plus faible, dans le noir.
Tu crois qu'on les a semés ?
Je ne sais pas. On ne les entend plus en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
On se planque !
Tu crois qu'ils vont revenir ?
Je ne sais pas, justement.
On aurait plutôt intérêt à déguerpir vite fait dans l'autre sens.
Tu as vu le sens qu'ils ont pris ?
Non.
Alors on risquerait de se retrouver derrière eux.
C'est vrai.
Et puis déguerpir, c'est fatigant. Alors qu'en se cachant par là, on les guette.
C'est juste.
On les attend. On les surprend. On parlemente. Et tu te bats avec le chef.
Merci. J'en prends plein la tête, je suppose ?
Oui, mais tu gagnes à la fin.
Ladies and gentlemen, please welcome the Black Rhino.
Les deux hommes entrent sur le ring et le silence se fait maintenant dans la salle qui grouillait encore de bruit il y a quelques secondes. Ils se regardent.
La lumière est revenue sur scène. Adrien a passé des gants de boxe, un petit short, se trouve torse nu, tandis que Mehari, micro en main, casque sur les oreilles, fait le commentaire.
L'instant est solennel. L'arbitre les invite à se serrer la main. Le match va pouvoir commencer. Les deux athlètes s'échauffent de petits coups, de petites avancées. On a l'impression qu'ils cherchent à se tester l'un l'autre. Petite droite de Malaki, gauche d'Ivanovic qui attaque à la tête un peu plus vivement. Oh là 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 là, Ivanovic se déchaîne et Malaki tombe au sol. Oui, c'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Après 30 secondes, secondes d'entrée en jeu, l'arbitre compte 4, 5, 6 mamas qui se relève, s'essuie le visage et repart aussitôt. Il s'en donne à cœur joie maintenant sur son adversaire.
On entend le bruit de course qui revient, tandis qu'Adrien s'en donne à cœur joie et cogne de plus belle sur son adversaire invisible.
Empêchant toute nouvelle attaque, il... Adrien ?
Quoi ?
Ils reviennent.
On ne bouge surtout pas.
Ils nous cherchent, on fait quoi ?
On ne bouge surtout pas.
Le type de l'auto n'a pas l'air commode, il ne laissera pas tomber avant de nous avoir retrouvés.
Ils veulent notre peau, c'est clair.
Pour se venger.
C'est évident.
Avec une bombe atomique, tu crois qu'on les tue tous ?
Avec une bombe atomique, oui.
Mais avec un tank ?
On s'en sort.
Un fusil mitrailleur ?
Encore possible.
Une paire de ciseaux ?
C'est tout ce qu'on a ?
C'est tout ce qu'on a.
Alors, il ne vaut mieux pas qu'ils nous trouvent.
On est dans notre tort ?
Oui et non.
De quel côté se trouve la police ?
Avec nous.
Alors, on va à la police et on leur dit tout.
Tout ?
On leur raconte notre vie, comment on s'est rencontrés.
À vélo.
Tu faisais du vélo, moi je conduisais une barque. Ça n'était pas l'été.
Je pédalais tranquille sur un petit sentier qui allait longeant la rivière.
On les retrouve, elle dans une barque avec des rames, lui pédalant sur un vélo. Ça fait un peu comme un sidecar. Il n'avance pas.
Tu t'appelles comment ?
Toi d'abord.
Adrien.
C'est Cloche.
C'est comment toi ?
Mary.
C'est un prénom de voiture ?
Tu trouves que je ressemble à une voiture ?
Plutôt à un rameur.
C'est normal, je suis dans une barque. Mon frère dit que je ressemble à un petit animal.
Ah bon ? Moi je trouve pas. Et c'est ta barque ?
Ouais.
C'est pas mon vélo.
Tu l'as volé ?
Je l'ai emprunté.
C'est un vélo de cirque ?
Je l'ai emprunté à un cirque.
Tu connais un cirque ?
Ouais.
Tu dois bien t'amuser alors ?
Je fais du vélo.
Il y a des lions ?
Des lamas.
Des trapézistes ?
Un couple et des singes dans une cage.
Et est-ce qu'il y a une piste avec du sable ?
Non.
Alors c'est un petit cirque.
Et alors ?
Alors c'est moins excitant.
Tu sais jouer à quoi toi ?
Aux autotamponneuses, aux pendus, aux yeux qui brillent, à l'enterrement de ma grand-mère.
C'est marrant ça ?
Oui, mais j'y joue pas souvent, on n'a jamais que deux grand-mères.
Si on y joue ensemble, ça nous en fait quatre ?
Trois, j'en ai perdu une.
Trois, c'est coquet, ça fait un petit pécule.
Un petit capital.
Un bon début, après il nous reste les grands-pères, les parents.
Quelques cousins germains, d'autres plus éloignés.
Toute la famille, et puis nous, c'est déjà important, presque une rente.
Même si on vit vieux ?
Oui, on en place une partie, ça fait de grandes vacances. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle, all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle, all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again. I rode her on my bicycle, all the way in the rain. She kissed me once, I took her out for lunch, and she never kissed me again.
Retour à l'ambiance précédente.
Et on dit tout ça à la police ?
Ça peut être dangereux, l'histoire de la rente.
On change l'histoire. Au lieu d'une rente sur la famille, on fait une rente sur des arbres qu'on aurait tous les deux.
Très bien, allons-y. Attends.
Quoi ?
On y va comment à la police ?
On récupère le sidecar.
Je te rappelle qu'il se trouve à côté du véhicule du bonhomme qui est à notre recherche, qu'il y a sûrement des réparations à effectuer, que ça risque de prendre pas mal de temps.
Avec un cadavre dans la voiture à côté.
Et un cadavre, ça pue. Il faudrait se procurer des masques à gaz.
Des masques de chirurgien, c'est pratique, c'est plus courant.
On attaque un chirurgien.
Tu bouges pas. Tu sors les mains de tes poches, tu les poses sur la tête. Tu recules gentiment sans te retourner. Gentiment, voilà. Et maintenant, tu me dis où se trouvent les petits masques. Tu me les donnes et tu t'en vas tranquille.
Pardon ?
T'as très bien compris ce que j'ai dit.
De quel petit masque parlez-vous ?
Des petits masques que tu te passes sur le visage pour opérer.
Écoutez, il doit y avoir un moyen de s'arranger, je...
Les masques, et vite !
Ok, ok, je peux vous en donner un.
Deux.
Non, deux je peux pas.
C'est deux masques et après tu t'en vas.
Je peux pas, deux. Et puis d'abord, je n'en ai qu'un.
Montre.
Tout de suite.
Il fouille dans sa poche, sort un masque.
Jette-le à terre.
Elle s'approche et tandis qu'elle ramasse le masque, Adrien sort un revolver qu'il pose sur sa tête.
Ok, maintenant tu te lèves et tu me files ton fric.
Non mais on a un pistolet maintenant ?
On a toujours eu un pistolet ?
Pourquoi tu l'as pas dit tout à l'heure ? T'as dit qu'on avait des ciseaux.
C'est toi qui l'as dit.
Parce que je savais pas qu'on avait un pistolet.
Maintenant tu le sais, on a un pistolet, des ciseaux et deux masques.
On a un pistolet.
Oui.
On peut retourner au sidecar alors ?
Oui.
Noir, on les retrouve qui roulent. Mais Harry dort dans la cabine, la moto semble ralentir. Adrien se gare, coupe le moteur. Il regarde Mehari. Il tire une couverture, installe Mehari au mieux. La lumière tombe comme la nuit. Il y a un bruit de grillons, des bruits de voitures qui passent, de plus en plus de bruits de voitures, klaxons de voitures qui se croisent.
Faut pas que j'oublie d'aller voir grand. De sarrasin. Non, faut pas que j'oublie de lui dire. Et parce que dans le bus, je rencontre un homme. Tu te colles à moi, bonhomme. Tu profites de la situation qu'on se trouve tous tassés. Faut pas que j'oublie de lui dire à ton mère. Je vais chez ma grand-mère, bonhomme. C'est le chemin le plus rapide. Faut pas que j'oublie. Pardon ? Votre main glisse dans la mienne. Je crois que tu écartes ta main, bonhomme. Je sens son haleine. Peut-être il veut m'embrasser, mais son haleine. Je me concentre. Faut pas que j'oublie de lui dire qu'il pense à l'anniversaire de la mort de grand-père. Il serait beaucoup plus simple de faire ma vie avec cet homme. Il a peut-être un travail. Vous avez un travail ? Ça gagne beaucoup ? Comme moi. Il gagne comme moi. Pas beaucoup, mais à deux, ça fait deux fois plus. Il va m'épouser, c'est sûr, on fera un tas d'enfants, c'est sûr. Vous me ferez des enfants ? Ça y est, j'ai oublié d'aller chez grand-mère. J'ai oublié, c'est l'amour, sûrement. C'est l'amour. L'amour qui fait tout oublier. Peut-être on aura une gazinière électrique et une jolie cuisine. Vous êtes d'accord pour la gazinière électrique ? Alors, nous aurons des enfants et une gazinière électrique. Maintenant, il faut que je me déshabille. Maintenant, il va sûrement me faire un enfant tout de suite. Et son prénom, c'est quoi son prénom ? S'il me fait crier, ça pourrait lui faire plaisir que je crie son prénom. S'il a les pieds plats, mais il n'a pas l'air. S'il a les pieds plats, mes parents ne seront jamais d'accord. Vous n'avez pas les pieds plats ? Normal, vous êtes normal. Tout va mieux alors. Maintenant, faut pas que j'oublie d'aller prévenir grand-mère pour l'anniversaire. Et mon mariage. Et mon mariage. Why do you welcome them? You say, you'll provide the bird bath, yeah. I provide the skin, then I'm bathing in the moonlight. I'm to tremble like a kitten.
Acceptez-vous, mademoiselle, d'épouser ?
Oui, j'accepte, curie.
Vous lui serez fidèle ?
Je lui serai fidèle.
Jusqu'à la mort ?
Jusqu'à la mort.
Et devant Dieu ?
Et devant Dieu.
Alouette, gentille alouette.
Silence, silence. Vous l'aimerez ?
Je te plumerai la tête, je te plumerai la bec, et la tête et le bec.
Taisez-vous derrière !
Plus qu'à mes enfants, on enchaîne !
Vous l'aimerez ?
Au clair de la lune, mon ami.
Je crois que je vais rentrer là.
Prête-moi ta plume.
Répondez, soyez gentil. Vous l'aimerez ?
Sûrement.
Je n'ai plus de feu.
Dites oui.
Oui.
Redites-le pour voir.
Oui.
Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas du feu, ma chandelle est morte.
Non. Parfait. Vous lui serez fidèle ?
J'ai déjà dit, jusqu'à la mort.
Ma chandelle est morte, monsieur. Soyez chouette, quoi. Donnez-moi du feu.
N'insistez pas, mon vieux. Nous n'avons pas de feu, on vous dit. Vous lui donnerez de beaux enfants ?
S'il me donne une gazinière électrique.
J'ai promis pour la gazinière électrique.
Et il y a un allumeur électrique ? Non, je veux dire, c'est rapport au feu.
Chut !
Le plus beau modèle, et j'ai pas lésiné sur le prix. Électricité et gaz, c'est du haut de gamme. Un modèle unique fabriqué en série.
Vous prenez ?
On la prend.
Ils la prennent !
Amen. Revenons à nos moutons. Monsieur ?
Je lui ferai de beaux enfants, je l'emmènerai au cinéma, on dînera au restaurant, on fera du vélo et de la course à pied. Nos corps s'uniront avec ardeur sous le ciel étoilé, le papier peint sera bleu.
Et la moquette ?
La moquette...
Passons. Vous dites oui ?
Oui.
Et vous ? Vous dites oui ?
Oui.
C'est fini, vous pouvez vous embrasser.
Oh ! Bon bah c'est fini, remballez tous les gars, ils ont dit oui.
Banquet. Éclairage de balmusette, ambiance de mariage, on a beaucoup bu. En voix off, les voix se mélangent. Au milieu, Mehari danse.
Ils sont beaux.
Ils sont toujours beaux quand ils se marient. Rappelle-toi.
Non, je veux pas me rappeler.
Tu m'aimeras jusqu'à la mort.
Nous ferons l'amour sur la gazinière électrique.
C'est mon fils, jamais je l'aurais imaginé, madame.
Et moi, elle était tellement sauvage.
Oui, une vraie peste.
À l'électricité et au gaz.
Tu te rappelles, nous aussi, à leur âge.
Non, non, je veux pas me rappeler.
Ce soir, sur la gazinière électrique.
Un feu d'artifice.
Quand je pense qu'elle allait s'enfermer dans la cave pour pleurer après nous avoir insultés tous un par un.
Ça, c'est l'effet gazinière.
Je l'ai jamais vu aussi calme.
Une guenon, une vraie guenon.
Et pas qu'ils se sont promis des trucs.
Nous aussi, rappelle-toi.
Oh, tais-toi.
Je te promets.
Nous aussi.
C'est l'intérêt du deux en un. Si t'as une panne de gaz, il te reste l'électrique. Et inversement.
Je te promets.
Moi aussi.
Comme ces petites bougies d'anniversaire. Ces petites bougies amusantes sur lesquelles on souffle et qui se rallument, sur lesquelles on souffle à nouveau. On croit les avoir toutes éteintes, mais il y en a une qui revient à la charge. Puis deux, et toutes. Enfin, toutes se rallument. Et le souffleur à bout de souffle, il a beau souffler, toujours tout se rallume. Et les amis autour qui rigolent, et le souffleur qui n'en peut plus. Ça n'est plus drôle du tout. Les rires sont de plus en plus sordides. La fête vire au cauchemar sous cette pluie de rires. Ou comme de petites effigies en bois sur lesquelles on tire et qui se renversent quand on les a touchées et qu'un homme, à l'aide du commande électrique, remet aussitôt en place. Mehari tire une première fois, à l'aide du pistolet qu'on a vu tout à l'heure dans les mains d'Adrien, et tout semble s'éteindre autour d'elle. Mais la musique revient la première, plus sourde, plus dure, et les propos que le spectateur a déjà entendus reviennent. Mais les voix sont différentes. Alors Mehari tire à nouveau, et les voix résistent toujours. Elle court sur toute la scène, brise tout ce qu'elle peut briser. Et les voix et la musique s'arrêtent un instant. Mais toujours tout revient. Mehari hurle, tire à nouveau dans tous les sens, alors les voix se font plus douces, mêlées au bruit de la route et du sidecar. Et maintenant, c'est elle qui parle pour les autres, qui reprend les paroles entendues et le son de la musique s'estompe. Et puis, on n'entend plus rien. Il fait nuit à nouveau. Le sidecar roule, c'est toujours Adrien qui conduit, et Mehari a un air grave. Sa tête n'est pas heureuse. Adrien sourit par contre. Il semble avoir beaucoup de plaisir à conduire, là.
Tu roules vite.
C'est parce que j'aime ça, Mehari.
On a déjà tué quelqu'un.
Il était dans son tort.
J'ai peur quand tu roules vite.
C'est nouveau, ça.
Maintenant, j'ai peur. On pourrait mourir.
Pas nous.
Il n'y a aucune raison.
Je conduis vite, mais je conduis bien.
Je suis malade.
La moto ralentit, puis s'arrête.
Tu es malade ?
Oui, je crois.
Qu'est-ce que t'as ?
J'ai peur.
On roule plus ?
Non, on roule plus, ça fait peur quand même.
J'ai le pistolet. Il peut pas nous arriver grand-chose. Il n'y a personne, on va voir la mer.
C'est vrai ?
Oui, c'est derrière. Tu vois, là-bas, c'est les dunes. Il fait soleil. Et derrière, c'est la mer, avec des vagues. On se baigne, on rigole dans les rouleaux, on se couche sur le sable, on fait l'amour, non ?
Oui.
On n'est pas obligé, on peut faire des sandwichs à la place.
Si.
Si quoi ?
Si on fera l'amour.
Alors t'es plus malade ?
Je sais pas.
Il y a un long silence. Éventuellement le bruit de la mer. Peut-être un jeu de maquillage entre Méhari et Adrien. Le petit théâtre de Méhari. Adrien jouera lui, Méhari jouera elle. Ils sont grimés et ne se ressemblent pas. Des petits panneaux, lui et elle, sont posés à côté d'eux. Tableau 1, lui et elle, à table.
Celle. Celle.
Là.
Donne.
Non.
Donne.
Tends le bras.
Non, donne. Donne.
Non.
Donne.
Non.
Donne.
Non.
Donne.
T'as quel âge ?
Lui prend le sel.
Tu vois, c'était pas si difficile.
Pauvre merde.
Tableau 2. À table encore. Elle a un revolver posé à côté de son assiette. Lui, une hache. Ils se parlent sans s'écouter, sans se regarder.
Tu vois, on mange toujours la même chose, tu vois. Je comprends pas pourquoi. On pourrait manger autre chose, je ne comprends pas. Ça fait des années qu'on mange la même chose. Je t'ai pourtant offert une gazinière de luxe. Électricité et gaz. J'aurais mieux fait de t'acheter un livre de cuisine. Tu sais que ça me ferait plaisir de manger de temps en temps autre chose. C'est sûrement parce que tu n'as aucune raison de vouloir me faire plaisir. C'est ridicule en fait. C'est vrai que de toute façon, tu n'as jamais su cuisiner. C'est effrayant. Tu ne sais vraiment pas faire grand chose.
On n'a qu'à aller au restaurant.
Au restaurant ? Avec toi ? Non, j'aurais honte. Non, je pourrais pas. Non, quelle horreur.
Pauvre type.
C'est facile, tu sais.
Ce que tu fais, c'est pas facile.
J'essaie de te faire plaisir.
Moi aussi.
C'est faux.
Discrètement, la main de lui se dirige vers la hache. Il va pour cogner elle. Mais elle s'est précipitée sur le revolver, le tend vers lui, ce qui l'arrête aussitôt. Il se regarde.
Non.
Tableau 3. Elle en avant-scène jardin, lui en fond de scène court. Il s'envoie et se renvoie deux poupées en plastique.
Je m'en vais.
Va-t'en.
Je te quitte.
Comme tu veux.
Ça ne te fait rien de plus que ça.
Pourquoi ? Tu me détestes, non ?
Et toi ?
Moi ?
Oui, toi, tu ne me détestes pas ?
Tableau 4. Même jeu avec une poupée supplémentaire.
Je déteste le jeu que tu joues.
Mais je ne joue aucun jeu.
Très bien.
C'est toi qui n'es plus comme avant.
Mais oui, bien sûr, c'est moi.
Oui.
Toi, tu n'as pas changé.
Pas que je sache. Attention !
Lui fait tomber une des poupées au sol.
C'est pas grave. C'était le plus con.
Peut-être, mais c'est celui qui te ressemblait le plus.
Lui, soudain très ému, regardant l'enfant qu'il a laissé tomber.
Mon bébé.
Tableau 5. À peine a-t-il prononcé ces mots que les premiers bombardements retentissent. Bruit d'explosions, d'avions, de tirs, de DCA mêlés à des bruits de jeux électroniques. Sur scène, les meubles ont été renversés. Il y a de la vaisselle qui traîne partout, des assiettes, des couverts, les poupées bébés. Les premières explosions les ont fait fuir l'un et l'autre. Et ils réapparaissent maintenant chacun d'un côté, dans des petits chars en carton ou en bois qui font le bruit de vrai, et s'avancent l'un vers l'autre. Quand les deux canons peuvent alors se toucher, ils deviennent mous et mouvants, comme des trompes d'éléphants. Les bruits de la guerre diminuent petit à petit, tandis que les canons se caressent. Il y a maintenant une petite musique. Les petits chars se mettent à danser maintenant l'un avec l'autre, s'attirent, se repoussent de façon sensuelle. Les chars se frottent, se touchent. Des deux canons sortent deux mains qui vont l'une vers l'autre, s'agrippent, tirent l'une vers l'autre, etc. Puis les mains disparaissent dans les canons. Penauds, les petits chars s'en retournent chacun d'où ils venaient, canon bas, ils font un bruit de mobilette. Mais l'un des deux soudain se retourne et revient à la charge dans un bruit plus fort. Le second se retourne à son tour. Moteur à l'arrêt, il reste un instant à se regarder. Le premier se précipite alors vers le second, le tamponne, un bras sort du canon, la main tient une fourchette, le second char est roué de coups, il se renverse. Du char vainqueur surgit alors Adrien, qui n'est plus grimé, tout sourire, face publique. Dans l'autre char apparaît Méhari, elle pleure. Fin du petit théâtre de Méhari. Noir. On entend le bruit de la moto. Lumière, le sidecar roule. Dans la cabine, il y a Mary, sous une couverture, qui respire mal, malade. Adrien roule vite, très vite. Il double des voitures, il a un air grave. Il jette de temps en temps des coups d'œil vers Mary. Un noir rapide, la moto s'est arrêtée. Adrien est assis par terre. Mary, toujours dans la cabine, sous les couvertures. Elle tousse.
T'as faim ?
Non.
T'as rien mangé ?
J'ai mal au cœur.
C'est pas une raison d'avoir mal au cœur, Mary, c'est pas une raison.
On part.
Non.
Pourquoi ?
Je sais pas pourquoi on part pas, parce que t'es malade, parce qu'il fait froid, la nuit quand on roule, parce... Je comprends pas, Mary, je comprends rien. Tu dis rien, je suis là, moi, je te regarde. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis triste, tu tousses, t'es toute pâle, t'as les yeux qui se ferment tout le temps, et puis ça cogne là derrière, ça s'arrête pas de se battre, sans arrêt, et puis ça se calme, et puis ça recommence, à nouveau, et plus fort, et pif, paf, pof, tac, boum. Et un dans le ventre, et un dans le nez.
Adrien se lève, tire de sa poche un petit cotillon sifflet, il souffle dedans, il enchaîne avec une autre pitrerie. Mais Harry sourit, il la regarde.
C'était bien la mer, non ?
Oui.
C'était beau avec les vagues, non ?
Si.
Alors quoi ?
J'étais pas belle.
Parce que t'as pas regardé les vagues. Si on regarde très loin tout au fond et longtemps, alors le soleil disparaît dans la mer. Et si on dort pas, on le voit qui revient doucement. Il est tout mouillé, c'est sûr. Alors il monte très haut et il se met au soleil pour sécher.
C'est très joli. Je vais mourir, tu crois ?
Bien sûr, dans l'après-midi, vers 5 heures à peu près.
Il passe un nez rouge de clown.
Docteur ! Docteur, docteur, c'est ma petite fille, elle est très malade.
Il retire le nez rouge, passe un nez noir.
Très malade.
Nez rouge.
Oui, docteur, elle dit qu'elle va mourir.
Nez noir.
Alors c'est le cancer.
Nez rouge.
Le cancer, docteur.
Nez noir.
Eh oui.
Nez rouge.
C'est un malheur, c'est un malheur. Qu'est-ce que je peux faire, docteur, dites.
Nez noir.
Rien, c'est le cancer, il n'y a rien à faire.
Nez rouge.
Rien.
Nez noir.
Rien.
Nez rouge.
Alors je dois pleurer très fort ?
Nez noir.
Oui.
Nez rouge.
Bon.
Adrien se retourne vers Mary, qui semble toujours fatiguée mais qui rigole. Adrien sourit, il la regarde, il va s'asseoir plus loin sans la quitter des yeux.
Mary ?
Quoi ?
Quand est-ce que ça ira mieux ?
Je sais pas.
Mary s'endort. Le jour tombe, Mary dort la tête sur les genoux d'Adrien.
Je comprends pas, Mary. Pourquoi tu t'en vas comme ça sans rien dire ? Je suis là, à côté de toi, et c'est comme si je n'existais pas. Et si je te demande ce qu'il y a, ce que c'est, tu réponds « je sais pas ». Hein, Mary, tu ne sais pas. J'en ai assez de tes « je sais pas ». Je n'ai pas accès à ton petit enfer personnel. Mary, on ne rentre pas comme ça dans la tête des gens, on reste à la porte et on attend que ça passe. Mais moi, j'ai peur, Mary, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Quelque chose qui te ronge, Mary. Et toi, tu ne fais rien, tu te laisses bouffer. Faut que tu reviennes, Mary. Qu'est-ce qui se passe pour que le moindre de nos jeux devienne si grave ?
Adrien ?
Oui ?
Il y a un petit théâtre dans ma tête. C'est la nuit. On roule très vite. Il pleut fort. La route est mouillée. Ça glisse drôlement. Je veux pas regarder la route. Il y a des voitures, on dirait qu'elles veulent faire la course avec nous. Il y a les phares par derrière et puis ça klaxonne. Toi, avec ta main, tu leur fais signe de passer. Comprendre qu'on ne veut pas la faire, la course avec eux. Tu leur dis que je suis malade et puis alors ils passent, on continue à rouler. Et puis j'ai toujours peur, toujours qu'on parte dans le décor. Tu vois, on est une barque et un vélo. Je suis dans la barque et elle est pas bien solide, alors forcément...
Ils sont bien attachés tous les deux. Ils roulent. Il n'y a pas d'accident, d'accord ?
D'accord. Adrien ?
Oui ?
Ils sont attachés comment ?
Soigneusement.
May the beauty befall me, make me walk. May the beauty behind me, make me walk. And if I don't walk, and if I don't walk, let me die. And if I don't walk, and if I don't walk, let me die. make me walk. May the beauty below me make me walk. And if I don't walk, and if I don't walk, let me die. And if I don't walk, and if I don't walk, let me die. Beauty around me make me walk. May the beauty around me make me walk. And if I don't walk, and if I don't walk, let me die. And if I don't walk, and if
Et voilà, on vient d'écouter l'intégralité de la pièce Méhari et Adrien de Hervé Blutsch, coiffeur et auteur dramatique. Pièce écrite en 2000 que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Vez dans le 9e arrondissement et certainement dans d'autres bibliothèques de Lyon, édité aux éditions théâtrales. Un grand merci à tous les lecteurs, au renfort pour les chœurs. Merci à tous, ils ont tous filé. On va profiter de ces dernières minutes qui nous restent pour notre petite chronique de chronique théâtrale d'actualité à Lyon et aux alentours. Marvin, qui est avec nous régulièrement sur les ondes de Radio Canu, nous a écrit une petite chronique sur le spectacle Un ennemi du peuple de Ostermayer qui joue en ce moment au TNP, qui jouera encore ce soir et demain. Donc je vous la lis en son nom. Si rappel, à en juger par l'acclamation générale, première fois depuis bien longtemps que je vois un public se lever massivement, la pièce a plu. L'adhésion semble unanime moins une voix, la mienne. Habituellement peu avare en applaudissements, j'accorde deux rappels et continue à applaudir sans le cœur, seulement par convention et par peur du jugement de mes deux voisins de siège au comble de la joie. Une immense déception m'envahit. Ostermayer et ses démons sont bien loin. La pièce commence pourtant très bien. L'atmosphère créée par cette phrase projetée et les musiques, les voix des acteurs qui chantent, donnent envie de se laisser prendre, commencent à m'emporter. L'histoire prend. Je suis assez fidèlement malgré le surtitrage. Les jeux d'acteurs sont bons, bien qu'un peu inégaux. J'assiste à une mise en scène d'Ostermayer comme je les aime, avec naturel du jeu, cigarette au bec. Puis les transgressions scéniques se font de plus en plus nombreuses, de ces transgressions qui ne servent à rien d'autre qu'à créer du spectacle et éblouir le chaland. Et celles-ci se poursuivent tant et si bien qu'on finit par perdre le fil. Les textes se mélangent et autant on peut être magnifiquement frappé par l'actualité criante du texte d'Ibsen, autant on finit par ne plus savoir ce qui en est vraiment issu. Les anachronismes s'enchaînent, on joue avec tout, même avec le texte. C'est vraiment dommage à mon sens, car le sujet initial porté par le texte est d'un intérêt certain pour tout citoyen que nous sommes et nous interroge sur notre place et nos opinions au sein de la société. Loin de moi l'envie de tout dévoiler, et je vous laisse vous rendre compte par vous-même. La première heure m'a particulièrement touchée, et le jeu des acteurs, ainsi que les thèmes abordés, valent tout de même le coup de se confronter à cette belle pièce et son beau décor, que les transgressions successives ne permettront malheureusement pas de préserver. Et à en juger par la liesse générale, oserais-je dire le bon mot populaire, cette mise en scène a de quoi en ravir plus d'un. Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mise en scène de Thomas Ostermayer, aujourd'hui et demain à 20h au Théâtre National Populaire de Villeurbanne.
Merci Marvin.
Merci Marvin, avec la voix de Marion. Voilà, je vous laisserai donc juger par vous-même de cette pièce que j'ai vue mardi soir, le soir de la première, le même soir que Marvin d'ailleurs. J'avais prévu d'écrire une chronique avant de savoir qu'il allait en faire une, beaucoup plus dithyrambique comme j'ai l'habitude de les faire, et puis parce que vraiment là, j'ai trouvé que ces 6 rappels se justifiaient. Voilà, Marvin n'est pas là pour qu'on en débatte et c'est pas le lieu, mais vraiment c'est une très belle pièce, un très grand moment de théâtre avec en effet un mélange de textes, l'intrigue principale en 2 mots, vraiment pour faire très court, c'est l'histoire du docteur Stockman qui est joué par un jeune trentenaire berlinois dans l'adaptation de Stormeyer. Qui découvre que l'eau des thermes de sa ville, de sa petite ville, est polluée. Et donc, qu'elle ne fait pas du bien aux gens qui vont aux thermes. Et donc, il fait remonter ça aux hommes politiques, aux élus de la ville, dont un est son frère. Et il s'aperçoit que ça bloque complètement et qu'on ne peut pas mettre ça à jour, sinon toute l'économie de cette ville serait mise à mal. Et donc là, on rentre dans des rouages politiques, dans la corruption de la presse. Et puis, je vous le dis quand même, si jamais vous ne pouvez pas aller le voir, et puis je pense que ce n'est pas trop grave de dévoiler ce moment. Un moment, le docteur Zachman fait un discours à la tribune qui n'est pas un texte d'Ibsen, qui est un texte dont j'ai oublié, n'est pas la référence, mais peu importe. Sur la crise économique, voilà, sur la décroissance, pour la décroissance, un discours très très emballant. Les lumières dans la salle sont allumées et à la fin de ce discours, les acteurs donnent la parole au public en leur disant « Et vous, qu'avez-vous pensé de ce discours ? Qui est d'accord avec lui ? Levez la main ceux qui sont d'accord. » Forcément, toute la salle lève la main. Et ensuite, il nous invite à expliquer pourquoi on est d'accord. Donc, ça crée un moment assez incroyable, assez...
Un débat,
voilà. Voilà, en 2 mots sur Ostermeyer, un très très beau spectacle. J'espère que vous pourrez aller le voir ce soir et demain. Pour faire un petit point, agenda, la semaine prochaine, à ne pas rater à Lyon. Alors, on n'a pas tout pris.
On peut peut-être déjà juste, Marion, t'interrompre et parler de cette semaine, puisque cette semaine, au Théâtre du Fou, il y a encore le spectacle En même temps, mis en scène et joué par Florent Fichot, qui intervient beaucoup dans cette émission. C'est vraiment un super spectacle à voir, donc je vous invite à aller le découvrir. C'est donc au Fou, encore ce soir, demain soir et dimanche. Ce soir et demain soir, c'est à 20h30 et dimanche, c'est à 18h, donc au Petit Théâtre du Fou, juste à côté de la place Satonnet. Voilà pour cette semaine.
Et cette semaine aussi, il y a un spectacle au Nouveau Théâtre du 8e qu'on a reçu aussi ici. Voilà, un théâtre qu'on défend beaucoup. Le spectacle s'appelle Bienvenue dans le Nouveau Siècle, Dr Freud. Et c'est ce soir uniquement à 20h. C'est un texte de Sabina Berman, une auteure mexicaine, et une mise en scène de Guy Néjean, donc de la compagnie des 3-8. Toujours au NTH8, la semaine prochaine cette fois. Enfin, ça commence la semaine prochaine. On pourra découvrir Phèdre et autres Grecs. L'année dernière, il y a eu Électre, je crois, dans la même lignée. Cette année, ce sera du 6 février au 17 février au NTH8, donc dans le 8e arrondissement. C'est un texte de Ximena Escalante et une mise en scène de Sylvie Mongin. Et puis pour terminer, pour conclure un petit peu sur ce cycle jeune public, puisque quand même on vient d'entendre un texte jeune public dans le cadre du cycle jeune public, j'annonce la prochaine création de Nino Dintrona au Théâtre Nouvelle Génération Centre Dramatique National de Lyon. Ça commence la semaine prochaine aussi, le 7 février, et une pièce